Est-ce que ça va? Bien entendu. Très bien en plus. Waouh! Alors, vous êtes prêts pour partir à nouveau dans le Cantique des Cantiques? Ce sera la 7e étude. N'est pas encore au bout. Moi, j'y avance. Normalement, c'est 12. 12 études, pas 14. Allez, est-ce que vous avez trouvé Cantique des Cantiques? Déjà, chapitre 5. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 8. On va lire 8 versets, on va lire donc jusqu'au verset 16 inclus. Et on va parler au travers de cette étude de la gloire du Seigneur. Il est magnifique. Amen. Et la Sulamite, eh bien, au travers de ses paroles, quelque part, nous fait un parallèle avec notre bien-aimé à nous. Et c'est formidable de voir. Eh bien que nous aussi, nous pouvons tout simplement bénéficier de choses formidables. Hein, c'est la Pâque, on y arrive, là, ce week-end. Les festivités ont commencé. Hein, vous allez sur des chaînes aux Philippines et autres. Vous voyez déjà le chemin de croix, des hommes qui se font crucifier. Mais vraiment, voilà. Est-ce que le Seigneur a demandé ça? Non. Non. Par contre, il a recommandé de le suivre lui, non pas dans ce sacrifice-là, mais dans la foi de ce qu'il a accompli. Parce qu'à un moment donné, il a dit « Tout est accompli ». Donc, il n'y a rien à rajouter. Amen. Il y a simplement à rechercher, à prendre et à recevoir ce qu'il nous donne. Alors, vous avez trouvé Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 8. Alors, nous lisons. « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis belle d'amour, ou que je suis malade d'amour, pardon. Qu'a ton bien-aimé, lui répondent les filles de Jérusalem, qu'a ton bien-aimé de plus que notre, ô la plus belle des femmes, qu'a ton bien-aimé de plus que notre, pour que tu nous conjures ainsi. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue, entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolite. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Quelque part, leur dit, vous avez votre réponse. Amen. Eh oui. Alors, au travers de la personne du bien-aimé, eh bien, c'est la gloire du Seigneur qui est proclamée dans tout ce passage. Amen. Quel magnifique Seigneur nous avons. Vous savez qu'on est, privilégié. Alléluia. On a été éclairé. Mon cœur se réjouit de vivre tout simplement sous son regard. Alors s'il est question d'organes physiques, hein, la tête, les joues, les lèvres, les jambes, les mains, etc., à chacun est associé quelque chose de précieux, de surnaturel. Bien sûr, pour nous, de divin. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Étant fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Amen. Il n'est pas un petit Dieu, comme le dit le témoin de Jéhovah. Il est Dieu entièrement. Amen. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça a choqué, ça a soulevé les cœurs, ça a permis à certains de s'exprimer en disant, mais pour qui se prend-il? Surtout quand il a dit à un homme paralytique, tes péchés sont pardonnés. Amen. Alors bien sûr, il a ensuite dit à ce paralytique de se lever, de prendre son lit, de rentrer chez lui, pour que quelque part, eh bien, il se remette en question, il réfléchisse. Oh, c'est pas anodin, il a dit tes péchés sont pardonnés. Et ensuite, il le fait lever, il rentre chez lui, debout, sur ses jambes. C'est un personnage particulier, ce Jésus. Amen. Alors ici, il s'agit de la gloire du Seigneur, je dirais, dans la réalité de ses fonctions, de son ministère actuel, en notre faveur. C'est l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 25, qui dit ici, c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Jésus est vivant. C'est vrai qu'il est monté à la croix du calvaire il y a plus de 2000 ans. Amen. Mais il n'est pas resté dans le tombeau, ni sur la croix. On l'a décloué, on l'a dépendu, on a mis son corps dans le tombeau, oui. Mais allez à Jérusalem, vous verrez que le tombeau, il est vide. Amen. Parce que Jésus est vivant, il a triomphé de la mort. Et bien sûr qu'il peut, tout simplement, eh bien, agir. Hein, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Vous n'avez pas d'une religion, mais qui s'approchent de Jésus. Et ce soir, approchez-vous de Jésus si ce n'est pas encore fait. Venez vers lui, il vous ouvre les bras. Il veut tout simplement votre bien, il veut le meilleur pour vous. Et puis, c'est écrit, hein, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Il dit en leur faveur, c'est la nôtre. Amen. Hein, il veut sauver, il veut éclairer, donner l'intelligence, renouvellement spirituel. Il le fait tout simplement et il intercède auprès du Père. La Sulamite, décrivant le corps de son bien-aimé, précise au verset 16, et moi j'ai la version synodale, hein, son corps est un chef-d'œuvre. Alléluia. Eh oui. Toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé. Amen. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la seconde? Elle est pleine de charme. Ah, il a trouvé. D'accord. Tel est mon bien-aimé et mon ami, fille de Jérusalem. Ainsi, les organes cités sont pour nous, eh bien, les symboles d'une réalité merveilleuse, extraordinaire. Alors, nous contemplons, bien sûr, la gloire du Seigneur. Et comme je l'ai souligné, je le redis, eh bien, son action puissante est bénie dans nos vies. Aujourd'hui, je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu, c'est parce que ce bien-aimé, hein, qui a choisi le sacrifice, la mort expiatoire, et qui a choisi de venir et de se dépouiller de sa gloire pour venir parmi les hommes, marcher parmi nous, eh bien, c'est parce qu'il a agi dans ma vie. Il agit dans votre vie pour la plupart d'entre nous. Mais il peut agir aussi dans ta vie, toi, simplement. Eh bien, si tu veux lui ouvrir ton cœur, il le fera. À la question des filles de Jérusalem, qu'a ton bien-aimé de plus que notre? Vous voyez, elle le distinguait, elle. Les autres ne le voyaient pas. Et ici-bas, vous avez parlé de religion, même parlé de Jésus, sans le connaître. Ça peut être banal, hein? Eh oui, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, Jésus? Mais expérimente son amour. Sois touché par sa grâce et tu verras ce qu'il a de plus qu'un autre. Alors la Sulamite, elle répond, hein, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Pardon. Alors le bien-aimé est blanc et vermeil. La couleur vermeil, c'est un rouge vif, profond. C'est la couleur du sang. Amen. Jésus a versé son sang à la croix du calvaire. Amen. La couleur du sang. Et dans un commentaire du cantique fait par des Israélites, elle se trouve cette traduction. Mon bien-aimé est pur et il purifie le péché. Mon bien-aimé est pur et il purifie le péché. Et il y a là une note, hein, je l'ai relevée, je l'ai notée, hein, qu'il y a sur ce passage. Et je dirais qu'elle n'est, on ne peut plus clair, bien sûr. Hein. Blanc signifie la pureté. Et le pardon. C'est la note que j'ai soulignée et que j'ai repris. Hein. Et le rouge, le péché et la punition. Donc blanc signifie la pureté, le pardon. Et rouge, le péché et la punition. C'est pas ce qu'a fait Jésus. Il a été puni pour nous à la croix du calvaire. Hein. La note est poursuivie par ceci. Elle dit, si ces deux attributs semblent contradictoires, blanc et vermeil, ou rouge, ils sont tous les deux présents en lui simultanément. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Pour nous, dans Hébreux chapitre 7, versets 26 et 27, nous trouvons une magnifique réponse. Je dirais une meilleure réponse pour nous. Et il est dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque année des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en souffrant lui-même. Vous voyez, Jésus, il n'est pas comme les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs de l'époque, comme les prêtres, puisque lui, il a choisi de se sacrifier. Et aucun de ceux qui l'honorent aujourd'hui, eh bien, ne sont passés par le même chemin que lui, étant allé jusqu'à la mort expiatoire. D'abord, ça ne vous servit à rien, parce qu'il fallait quelqu'un de pur, de saint, de sans péché. Dieu a cherché, qui enverrai-je? Et Jésus a dit, Père, envoie-moi. Nous devons les sauver. Il n'y a que Jésus qui, ayant marché sur la terre, ne s'est jamais compromis d'aucune manière avec le péché, la corruption. Il n'y a pas de mélange chez Jésus, il est unique, il est fils de Dieu. Il est sauveur. Et c'est par son sacrifice, il s'est offert lui-même, eh bien, que nous pouvons recevoir le salut tout simplement en y croyant et en demandant à Dieu tout simplement de nous sauver. Alléluia. Christ, notre Seigneur, eh bien, il est à la fois celui qui est pur et finalement celui qui purifie. Son sang nous lave et nous purifie de tout péché. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son sang nous purifie de tout péché. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Alléluia. Au verset 10, la Sulamite ajoute, il se distingue entre 10 000. Bon, il se distingue entre des milliards et des milliards. Croyez pas? Il n'y a que lui. Amen. Alors pourquoi une telle expression? Sinon, pour souligner que nul ne peut lui être comparé. On peut comparer des grands personnages, des héros, l'Antiquité ou tout proche. Mais qui va y arriver à la cheville? Personne. Personne. Amen. Il est au-dessus. Jésus, notre Seigneur, est unique. Il est le Fils unique du Père. D'accord. Même si ça choque les musulmans, qui disent que Dieu ne peut pas enfanter, donc il n'a pas de fils, c'est un usurpateur. Vous connaissez un usurpateur qui irait mourir, se sacrifier pour les autres? Quand on est un usurpateur, normalement, c'est pour acquérir un bénéfice, c'est pour, quelque part, s'en mettre plein les poches, ou avoir une situation. Mais lui, il passe par la croix, par la mort. Amen. Non, ce n'est pas un usurpateur. Il s'est sacrifié volontairement pour nous ouvrir à nous la voie du salut. Amen. La porte de l'éternité. Alléluia. Oui, il est unique. Il est le Fils unique du Père. Et dans Hébreux 7, 28, qui est la suite de du texte précédent que nous avons vu jusqu'au verset 27, il dit « La parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. » Il est le seul qui soit parfait. Amen. Il est le seul, eh oui. C'est le psalmiste qui dit ceci dans le psaume 45, verset 3. « Tu es le plus beau des fils de l'homme, la gloire est répandue sur tes lèvres. » Tu es le plus beau. Alléluia. Si votre femme, vous, monsieur, vous dit que vous êtes le plus beau, oui, après Jésus. Non? Ben oui, moi je suis beau, ma femme me le dit. Pas moi qui le dis, c'est elle. Mais ben après Jésus, parce qu'il est encore plus beau, Amen. Et oui, tu es le plus beau des fils de l'homme, la gloire est répandue sur tes lèvres. Cet hymne, finalement, au roi entrevoit le futur avènement de Jésus dans sa gloire. Et dans d'autres passages de la parole, sa gloire apparaît différemment. Par exemple, dans Matthieu 17, verset 1er, c'est le texte de la transfiguration pour ceux qui lisent la parole de Dieu. Nous lisons, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Oh, il y a là une apparition particulière. Amen. Son visage resplendit, il fut transfiguré. Il était comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alléluia. Magnifique, symbole d'autorité, de pureté. Puis dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 12 jusqu'au verset 16, Jean est seul, il est sur l'île de Patmos. Puis il entend une voix. Voyez ? Et puis il dit, je me retournais, au verset 12, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est impressionnant, même si c'était magnifique, parce que la neige est magnifique. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vous arrivez à, quelque part, braver le soleil et le regarder de face. S'il n'y a pas de protection, vous perdez la vue. Vous ne pouvez pas tenir, hein, de toute façon. Amen. Alors, telle est la gloire de Jésus, vue par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. C'est bien vrai, hein, j'y reviens, qu'il se distingue entre 10 000. Amen. Nul ne peut lui être comparé. Au verset 11, la Sulamite poursuit sa description, hein, la description de son bien-aimé. Elle dit « Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. » La tête d'or, pure, est une expression qui, je dirais bien, est éclairée. Vous savez, la parole de Dieu s'éclaire par elle-même. Amen. Ça éclaire là les Colossiens chapitre 1, verset 18, où il est dit qu'il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. » Verset 20, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Amen. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, comme noires comme le corbeau. Jésus-Christ, notre Seigneur, est la tête, la seule tête. C'est lui le chef de l'Église. Ce n'est pas Cyril. Ça n'a jamais été moi non plus. Hein. Partout où je suis passé. Nous prêchons Jésus. Nous annonçons la bonne nouvelle du salut par le sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus, l'agneau pascal. Amen. Mais nous ne sommes que des porte-paroles. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Hein. Inutiles. Oui. Mais le Sauveur, c'est lui. Amen. C'est lui le chef de l'Église. Alléluia. Et dans ce même verset 11, il est aussi dit que ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Dans les deux textes que nous avons cités tout à l'heure, Matthieu chapitre 17 et Apocalypse chapitre 1, nous avons lu que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige. Il ne s'agit pas là, bien sûr, d'un signe de vieillesse, mais ils sont, je dirais, associés comme signe de la majesté divine de notre Seigneur. Ici, dans le Cantique des Cantiques, les boucles flottantes sont noires, un symbole de jeunesse, je dirais, de vitalité, de beauté, comme, je dirais, proclamant la présence agissante du Seigneur. Amen. Il est toujours à l'œuvre. Allez, je veux le dire. Il est toujours avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Amen. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cherchez pas à dire qu'il a diminué, que c'est plus pareil. Oh, c'est plus pareil dans notre cœur. Mais lui, c'est le même. Il est identique à ce qu'il faisait autrefois et il peut le faire aujourd'hui. Alors vous voyez, la Sulamite, puisqu'on revient toujours et on fait un parallèle avec elle, voyez son bien-aimé, je dirais, dans la force de l'âge. Amen. Nous voyons notre bien-aimé comme celui qui est toujours le même pour agir en notre faveur, comme il est dit dans Hébreux chapitre 7, verset 25. Amen. Il est toujours capable. Ne le diminuez pas. Ne dites pas, oh, dans ce domaine, non, il ne peut rien. Hein. Il ne peut rien. Mais il peut tout. Il peut tout. Amen. Sinon, il n'est pas Dieu. Il est un petit Dieu. Mais non, c'est le grand Dieu des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a formés à partir de la poussière. C'est lui qui a choisi tout simplement de venir et de se faire homme. Ça, c'est un grand Dieu. Amen. Les dieux qu'on nous présente ne viennent pas vers les hommes pour se sacrifier. Mais le Dieu de la Bible, oui. Amen. Il s'identifie à nous. Il prend forme humaine. Alléluia. Le verset 12 donne une description sublime sur la gloire du Seigneur, hein, toujours dans le Cantique des Cantiques. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Il y a là quand même un langage magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette lettre, parce que c'est une lettre d'amour, hein, le Cantique des Cantiques, a servi à un baccalauréat, je ne sais plus en quelle année, mais il a servi comme sujet particulier, hein. Cette lettre d'amour a servi justement pour que nos élèves, ils ont dû grandir depuis, hein, ils sont peut-être dans la vie active, mais ça a servi justement comme examen, final de fin d'année. Magnifique, hein? Eh oui. Alors, il y a un langage merveilleux pour nous parler de quoi? D'abord du regard de notre Seigneur, et le regard, son regard, bien sûr, c'est sur nos vies. Ses yeux sont comme des colombes, hein, qui veut dire que le regard du Seigneur sur nos vies, c'est toujours un regard d'amour. Quand on nous dit que Dieu nous regarde, bon, mais la fille tout petit, hein, ce Dieu, j'en voulais pas, hein. Toi, le bon Dieu, s'il t'attrape, il te voit. Oh, pétard. Il n'a pas envie qu'il nous voit. Parce que quand on dit, tu vas voir. Eh oui. Mais moi, je lis que ses yeux sont comme des colombes. Colombes, c'est l'oiseau de la pureté, de la fidélité, etc. Et c'est finalement ce regard d'amour qu'il a sur nous. C'est-à-dire que le Seigneur te voit avec un regard d'amour. Tu réalises. Peut-être les autres te regardent avec un regard méchant, haineux, dédaigneux. Ah, elle ne vaut rien, elle ne vaut rien. Il est dit que nous sommes les balayures du monde. Alléluia. Moi, je dis Alléluia. Hein? Pentecôte. Oh, c'est des illuminés. Alléluia. Ça veut dire qu'on est éclairé, qu'on brille. Pas vrai? Mais si. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors, le psalmiste lui-même va dire ceci dans le psaume 33, verset 18 jusqu'au verset 20. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et les faire vivre au milieu de la famine. Amen. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Nous le lisons. Amen. Ne cherche pas le secours à droite à gauche, ne cherche pas auprès de même de gens qui te font des belles paroles. Non, ils peuvent te tromper. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend appui sur la chair humaine. Hein? Mais heureux est celui qui tout simplement prend appui sur le Seigneur, se confie en lui. Alléluia. Dans le verset 13, il est question de ses joues, de ses lèvres, de sa bouche, comme d'un parterre d'aromates, de plantes odorantes, de lys et de myrrhe. Ces paroles, la parole de Dieu, les paroles de notre bien-aimé, ce sont des paroles de vie. Il est lui-même la parole vivante qui accomplit en nous l'œuvre de Dieu. Il crée le vouloir et le faire en nous. Ce n'est pas des exploits qu'on finalement on fait quand on croit en lui, quand on espère dans sa bonté. Ce n'est pas des exploits, hein, parce que c'est lui qui fait tout. Il a donné sa vie à la croix. Il a payé pour nous. Il nous ouvre le cœur, il nous donne l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence au travers du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui accomplit tout. Au verset 14, ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites, ou selon les versions, garnis de rubis. Et de rubis, des pierres précieuses. Alors les mains du Seigneur portent encore là les marques de son amour pour nous. Amen. Elles ont été, nous le savons, percées à la croix du calvaire. Jésus les a montrées à ses disciples, hein, il leur a montré ses mains, il leur montra son côté également. Puis plus loin, il est dit au verset 27 et 28 de Jean chapitre 20, c'est à Thomas, hein, qui va s'adresser, il va dire « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. » Et Thomas répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Écoutez bien, c'est formidable déjà, hein, il a vu, il a cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je vais vous faire une confidence ce soir. Jésus, je ne l'ai pas vu. Pas non plus. Je ne l'ai pas vu en chair et en os. Mais néanmoins, je le vois à l'œuvre dans ma vie. Il a changé ma destinée. Il m'a donné une espérance formidable. Il a fait de moi son enfant. Je suis co-héritier avec Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Je suis co-héritier avec lui. Je fais partie des gens les plus riches de la terre. On ne dirait pas, hein? Ben oui, on peut être simple et riche, hein? Et nous, on est les plus riches. Amen. Ça fait de moi un homme heureux. Alléluia. Ces mains qui ont été percées sont aussi des mains bénissantes, hein? La main de Dieu, on l'a dit, c'est synonyme de puissance, hein? Et ainsi, nous qui avons cru, nous sommes au bénéfice de cette puissance extraordinaire. Amen. sa main est sur nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein? Jésus a dit que nul ne peut nous ravir de sa main. Hein? Jean chapitre 10, verset 28. Des mains bénissantes, mais aussi des mains protectrices. Alléluia. Il veille sur nous, il nous protège. Esdras dira ceci, Esdras chapitre 8, verset 31. La main de notre Seigneur fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi. Amen. La main de Dieu est sur vous. Si ce n'est pas encore fait, demandez au Seigneur de se révéler à votre cœur. De lui demander tout simplement de devenir votre, allez, votre sauveur personnel. Et sa main sera sur vous. Et si peut-être vous avez peur de l'avenir, le futur vous inquiète, parce qu'il y a bien des annonces qui sont faites pour nous inquiéter. Amen. D'abord, cette terre, elle n'est pas réservée pour être éternelle. Hein? Elle est réservée pour le jugement. Hein? Amen. Mais Dieu nous prépare une nouvelle terre, un nouveau ciel. Alléluia. Elle est pour ceux qui auront cru en lui. Ceux qui auront choisi de lui donner leur vie. Amen. Alors la main de notre Dieu fut sur nous et il nous préserva des attaques de l'ennemi. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, soit il ne sait pas, mais il est gardé. Je vous disais le nombre de fois où j'ai été gardé sans le savoir. Mais Dieu, celui qui peut mettre un ange pour nous protéger. Amen. Quand on voit les pérégrinations d'Israël face aux Égyptiens dans le désert, de partout où ils sont passés, la main de Dieu était sur eux et les nations n'ont pas pu les toucher. Hein. Amen. Et c'est la même chose aujourd'hui. Alléluia. Le verset 15, « Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. » Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, le Seigneur se révèle comme celui qui marche au milieu des sept chandeliers. Il est celui qui est agissant au milieu de nous. Le Seigneur est à l'œuvre. Ça vous lâche silencieux. Bouche bée. Mais oui, il est à l'œuvre. On l'a invoqué là ou pas? On l'a prié. On lui a demandé de faire quelque chose, d'intervenir, de venir, de relever le malade, d'agir également eh bien, dans l'esprit, dans l'âme, parce qu'il est celui qui donne l'espérance, il est celui qui donne également eh bien, comme un renouveau intérieur, il donne de vivre un nouveau départ. Eh oui, toutes ces choses-là, c'est lui qui le fait. Amen. Il est celui qui est agissant. Alors nous croyons, nous, moi j'y crois personnellement, Cyril aussi, d'autres aussi, hein. Et vous pouvez le croire aussi, hein. Donc, moi, je crois à cette action réelle du Seigneur. La Bible nous dit qu'il est vivant. Amen, on l'a dit tout à l'heure, le tombeau vide. Il est debout à la droite de Dieu. Alléluia, quand on est debout à la droite de quelqu'un, c'est qu'on est en train d'agir. Amen. Il est aussi par son esprit au milieu de nous. Il marche au milieu des sept chandeliers, c'est-à-dire qu'il marche au milieu de son église. Amen. Il a les yeux sur l'église d'Arles. Alléluia. « Tel est mon bien-aimé hein, », dit la Sulamite au verset 16. « Tel est le Seigneur notre bien-aimé. Il est glorieux, il est magnifique. » Amen. C'est beau, hein? Mais c'est la parole de Dieu. Je vais conclure en disant qu'un jour, nous partagerons cette gloire. Et en attendant, eh bien, nous devons le proclamer. Nous voulons le proclamer, nous devons le proclamer. C'est impératif, nous sommes sauvés pour servir. C'est notre vocation, c'est notre appel. 1 Jean chapitre 3 verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, dites Alléluia. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Nous ne sommes pas arrivés. Ce que nous allons être n'a pas encore été manifesté. Donc, nous ne sommes pas arrivés, ça veut dire qu'il nous faut nous tenir, je dirais, debout, veillant, brillant, renouvelant notre foi à force d'expérience. Amen. C'est, on se fortifie, on se fait du bien. Amen. On devient fort. Alléluia. Et nous finissons par une place imprenable. Quand nous voyons les manigances de l'adversaire, nous sommes capables de le voir. Et d'ailleurs, je connais la voix de mon bon berger. Ça, c'est pas la voix du berger. Fuis, loin. Hop. Moi, je veux entendre la voix de Jésus. Amen. C'est lui le bien-aimé. C'est lui notre bien-aimé. Amen. N'est-il pas différent de ce que nous pouvons voir ici-bas? Vous en avez certains qui sont calés. Paf, paf, ils en ont plein, là. Moi, je suis ébahi quand je vois des gens qui ont des souvenirs. Je parlais avec Cyril il y a quelque temps. Un frère que je connaissais à Briançon, il est capable de vous lire un livre comme ça, épais, dans la nuit, et le lendemain, de vous le réciter à la virgule près. Et lui, c'est le plus petit de la famille. C'est le plus petit de la famille. D'accord? Donc, il y a des gens formidables, hein? Moi, je n'ai pas de mémoire. Si je ne prends pas de notes, tout s'échappe, s'évade, hein? Et oui, j'ai besoin, moi, de prendre des notes. J'ai besoin. D'ailleurs, je prêche avec des notes tout le temps, hein? Parce que, voilà, je prépare, mais j'ai des notes. Parce que sinon, je vais à droite, je vais à gauche. Et puis, vous ne comprenez plus rien. Moi, j'aime bien qu'il y ait une introduction, un fil conducteur, et on arrive à la conclusion, tout simplement. Amen. Bon, la conclusion, c'est pour ce soir, hein. Mais il y en a encore d'autres. Hein. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. J'espère qu'il le fait au travers, eh bien, de cette petite lettre.